Il est 7h31 minutes. Le conseiller indépendant de la ville de Montréal, Marvin Rotran, souhaite que la ville emboîte le pas à San Francisco, qui a été la première ville américaine à imposer des limites à la reconnaissance faciale par la police ou encore la municipalité. C'était au mois de mai dernier. Et dans une motion qui va être débattue le 19 août, M. Rotran demande au conseil municipal d'adopter un moratoire sur l'utilisation des systèmes de reconnaissance faciale. Tout ça dans le respect du droit à la vie privée et des libertés civiles. Et là, ben, il dit, j'ai voulu demander à la Ville de Montréal, au SPVM, entre autres, s'ils utilisent les logiciels de reconnaissance faciale. Il n'y a pas eu de réponse. Bref, qu'est-ce que c'est au juste la reconnaissance faciale et de quelle façon ça peut intervenir dans nos droits individuels? Maître Pierre Trudel est professeur titulaire au Centre de recherche en droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Trudel.
Oui, bonjour.
Alors, d'abord, pour expliquer un peu ce que c'est la reconnaissance faciale, en fait, c'est un logiciel qui peut reconnaître des gens sur des images, par exemple, captées par des caméras vidéo, c'est ça?
Oui, la plupart du temps, on utilise des outils qui permettent de comparer des éléments là, du trait des visages, ce qu'on appelle des éléments biométriques, c'est-à-dire des éléments qui relèvent du corps humain. C'est une méthode biométrique, finalement. Et on compare ces informations-là avec des informations qu'on possède déjà dans des bases de données. Ouais.
Alors, ça pourrait être, mettons, la banque de photos de la police de Montréal, des gens qui ont arrêté au cours des dernières années. Puis là, on compare ça avec des images vidéo captées par des caméras placées
des caméras de surveillance. C'est souvent de cette façon que c'est utilisé de nos jours, là, dans les systèmes qu'on installe maintenant.
Mais de prime abord, on pourrait penser que c'est une bonne chose là, qu'on puisse voir s'il y a des criminels, par exemple, qui circulent librement sur les rues de la ville de Montréal. On pourrait penser que c'est une bonne chose, mais jusqu'à quel point, justement, ça contrevient aux droits et libertés?
Oui, c'est ça. C'est évidemment un outil qui peut être extrêmement utile, qui peut rendre de grands services. L'ennui, évidemment, c'est que si c'est pas encadré, ça peut donner lieu à un certain nombre de profilage. Ça peut profiler. C'est une des grandes critiques qu'on fait à ce type de système, c'est que ça peut parfois contribuer à harceler davantage des personnes qui font partie de groupes qui sont souvent ciblés par les forces de l'ordre, sont souvent l'objet de profilage, justement, le profilage ethnique, le profilage fondé sur la couleur de la peau ou la forme des visages. Et donc, ça, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'il existe déjà au Québec. D'abord, il existe au Québec une loi depuis 2001. Il suffirait de l'appliquer et de la mettre à jour pour, justement, prévenir ces dérapages. La loi, ici, elle est déjà là depuis 2001. Et il suffirait, elle prévoit qu'il y a un organisme qui s'appelle la Commission d'accès à l'information qui, justement, est censé évaluer les enjeux de ce genre de système lorsqu'ils sont mis en place. Elle est supposée examiner les précautions que l'on doit prendre lorsqu'on met en place un système biométrique.
Ouais.
La reconnaissance faciale, c'est de la biométrie. Et donc, il y a même des pouvoirs très étendus dans la loi pour permettre à la Commission d'accès à l'information de s'assurer justement qu'on utilise ça de façon correcte. Le problème, c'est que comme on a coupé les fonds dans ces organismes-là depuis 20 ans, ben l'organisme ne fait rien. C'est aussi simple que ça.
Ah ouais, à ce point-là.
Quand on coupe les services, là, quand on coupe les fonds, là, les gens pensent toujours que ça n'a aucune conséquence. Ben, une des conséquences, c'est que l'organisme ne fait rien. Et comme c'est mentionné ce matin dans l'article auquel vous faites allusion, on ne sait même pas ce que font les services de police.
Ben, c'est avec ça. Mais c'est ça le questionnement, parce que là, M. Rotran dit qu'il a posé la question au SPVM à savoir s'ils utilisent ce type de logiciel-là, puis il n'a pas obtenu de réponse. Et quand on lit également un article du Toronto Star, on se rend compte que la ville de Toronto, entre autres, la police de Toronto le faisait à l'insu du conseil de ville. Donc, on se demande, est-ce que la ville de Montréal fait la même chose, dans le fond?
Ben, c'est ça. Alors, il y a deux problèmes. C'est que d'une part, un manque de transparence souvent dans les services de police, en particulier les services de police, c'est un problème récurrent.
Ouais.
Manque de transparence, mais également, si on avait appliqué la loi, si on avait respecté la loi, ben, on aurait certainement été consulté. Si on utilise, et si on utilise ce type de système de reconnaissance faciale, ben, on aurait certainement été enregistré ce système-là auprès de la commission d'accès à l'information, et on saurait si c'est utilisé. Maintenant, si ça n'a pas été enregistré, ben c'est possible que ça ne soit pas utilisé, donc il faut quand même toujours garder à l'esprit que ça se peut qu'on ne l'utilise pas. Cela dit, si jamais les forces de police ou n'importe quel autre service municipal souhaite utiliser un système biométrique, ben il y a un mécanisme déjà prévu qu'il s'agirait de respecter, tout simplement.
OK. Donc, vous dites que si la police de Montréal veut faire ça, ils sont obligés de s'engager dans une démarche pour permettre aux gens de le savoir jusqu'à un certain point. Que moi, si je me promène sur la rue Sainte-Catherine, ben j'ai le droit de savoir si oui ou non je suis, comment dire, catalogué ou fiché ou surveillé.
Absolument. Ben, c'est-à-dire... Il y a actuellement ce que l'on fait, il y a ces fameuses ces petites mentions, là, ces avis souriez, vous êtes filmé, qu'on retrouve parfois dans les lieux publics. En fait, c'est une façon d'avertir les gens qu'on collecte des images par des caméras de surveillance, notamment. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on fait pour autant de la reconnaissance faciale. Hein. C'est, reconnaissance faciale, c'est une étape de plus. C'est comparer les images qu'on obtient à d'autres images qu'on possède déjà. Et qui permettent d'identifier
personnellement. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait eu, il y a quelques mois de ça, des centres commerciaux là, qui avaient admis, en fait, qu'ils utilisaient des logiciels pour connaître un peu le type de clientèle qui fréquente leur institution. Alors, c'est-tu des jeunes, c'est-tu des femmes, c'est-tu des hommes de tel âge ou des femmes de tel âge, etc. Ça, est-ce que c'est légal? Est-ce que ça contrevient à la vie privée?
C'est-à-dire, ça peut comporter des risques pour la vie privée, et c'est justement pour cette raison-là que le mécanisme qu'on a implanté au Québec en 2001 prévoit que la commission d'accès a l'obligation, a le pouvoir, en quelque sorte, d'analyser le système, de vérifier comment fonctionne ce système-là, quelles sont les précautions que l'on prend lorsqu'on le déploie, de quelle manière on assure que finalement les bons côtés de ces outils-là ne vont pas être complètement annulés, si vous voulez, par les inconvénients et par les risques d'intrusion là, qu'un outil comme ça peut impliquer pour la vie privée.
Mais en même temps, on est filmé presque continuellement dans une journée là. Si je me promène au centre-ville, en fait, ça commence dès que je sors de la maison le matin pour aller travailler. Si je prends l'autoroute, il y a des caméras du ministère des Transports qui sont là. Si je sais pas, moi, je passe sur une rue X, il y a des caméras de surveillance partout dans les banques, dans les dépanneurs, tout ça. On est constamment surveillé dans notre vie quotidienne, n'est-ce pas?
Oui, vous avez raison. C'est devenu un outil banal, un outil couramment utilisé, mais c'est justement pour cette raison-là qu'il faut qu'il y ait des précautions, qu'il faut qu'il y ait des mécanismes qui nous protègent contre les utilisations malveillantes. Hein. Ce sont des outils qui peuvent être extrêmement précieux. Vous parlez des caméras du ministère des Transports, c'est ce qui nous permet de prévoir ou de voir s'il y a beaucoup de circulation dans certains secteurs ou autres. Ça peut rendre de très grands services. Notamment pour la lutte contre la criminalité. Mais par contre, c'est comme n'importe quel outil efficace, ça peut avoir des effets extrêmement dangereux en termes de profilage, notamment profilage ethnique, mais également en termes de respect de notre vie privée. C'est-à-dire, on imagine mal une société dans laquelle les autorités sauraient exactement à quel endroit nous sommes allés, chacun d'entre nous, au cours de la semaine qui vient de passer. Et donc, c'est ce type de risque-là qu'il importe de bien gérer, finalement. Ouais. Autrement dit, c'est pas nécessairement d'interdire ce type d'outils biométriques ou de caméras de reconnaissance faciale.
Mais de l'encadrer correctement.
Qu'il soit encadré correctement pour que ça rende les services que c'est supposé rendre, que ça fonctionne correctement et qu'on assure que ceux qui utilisent ce genre d'outils-là rendent des comptes, hein, soient capables d'expliquer ce qu'ils font avec ce qu'ils font avec les données.
Ben oui, si je comprends bien, vous dites que les outils existent, il faudrait peut-être mettre du gaz dans le réservoir pour être capable de les faire fonctionner adéquatement. Je parle ici de la Commission d'accès à l'information.
Oui, je pense que c'est exactement ça.
Merci, M. Trudel, d'avoir été avec nous.
Ça a été une bonne journée. Un plaisir. Merci.
Au revoir. Maître Pierre Trudel est professeur titulaire au Centre de recherche en droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.